La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ notre Seigneur. Bienvenue à tous ici ce matin. Bienvenue dans ce temps de culte qui est un temps un peu particulier aujourd'hui puisque nous avons choisi de fêter l'anniversaire de Gaspard de Coligny. Gaspard de Coligny qui trône toujours sur la rue de Rivoli et qui rend reconnaissable notre église entre toutes par sa présence et en plus maintenant avec une présence très belle puisqu'il a été tout à fait rénové. Sa statue est très belle maintenant. Et nous avons choisi ce matin d'évoquer la mémoire de ce personnage particulier dans l'histoire du protestantisme, une façon pour nous de nous souvenir des combats qu'il a fallu mener pour la liberté du protestantisme en France, mais aussi peut-être pour nous souvenir que politique et religion sont intimement liées et que le combat pour le bien commun est un combat qui reste tout à fait d'actualité. Je vous invite à nous réunir dans la communion fraternelle et à chanter pour entrer dans ce temps de culte avec le premier répond que vous trouvez au début des psautiers français. Et Anja Schaeffer va nous conduire dans la liturgie.
Louons le Seigneur. Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. L'aile de la nuit s'est éloignée et je me réjouis dans la lumière. Voici un nouveau jour, un jour encore, Seigneur. Je suis dans la joie, Seigneur. Dans la joie, tous les jours, par ta grâce, c'est Noël et Pâques, c'est l'Ascension et c'est Pentecôte. Voici un jour encore qui brille, étincelle, éclate de bonheur à cause de ton amour. Chaque jour est ton œuvre et chacun est compté comme les cheveux de ma tête. Alléluia, Alléluia, mon Dieu, en Jésus-Christ. Et nous vous invitons à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 97 que vous trouverez dans les psautiers français. Psaume 97, et nous chanterons les quatre strophes de ce psaume.
Thank you.
Prenez place. Dans l'évangile de Marc, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Dans la prière, présentons-nous devant Dieu. Je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche. Je reçus la faiblesse afin d'apprendre à obéir. Je demandais la santé afin de faire de grandes choses. Plus grande encore. Je reçus l'infirmité afin de faire des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté afin d'être sage. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Je reçus l'impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie. Je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais. Et presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Seigneur, avec toi, je suis béni plus que n'importe qui. Amen.
J'aime mon Dieu car il entend la voix.
C'est super.
Dans la frayeur où le tourment m'oppresse, quand j'ai prié au jour de ma détresse, dans sa
nous vous invitons à vous lever pour recevoir la parole de grâce. Dieu renouvelle pour nous sa grâce et il nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. » Chantons à Dieu notre reconnaissance.
Nous confessons ensemble notre foi avec des mots parmi tous les mots possibles pour confesser la foi en Dieu. Nous croyons en toi et nous t'appelons Père, parce qu'un jour un homme qui croyait en toi est devenu ton fils par l'amour inconditionnel que tu lui as révélé. Il a annoncé ta grâce à ce monde. Nous croyons en Jésus et nous l'appelons Christ. Et comme lui, nous voulons accueillir, bénir, guérir les hommes que toi, tu mets sur nos chemins. Nous croyons que tu rends possible la communion entre les hommes par ton Esprit Saint. Et nous voulons construire la paix entre les hommes pour la gloire de ton nom. Malgré la mort scandaleuse de ton Fils Jésus, nous voulons croire contre le mal au salut que tu promets. Et comme lui, nous nous efforçons d'annoncer ta grâce. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, dans l'évangile de Matthieu, j'ai choisi de partager avec vous ce passage de l'évangile au chapitre 10, des versets 27 à 34. Le Christ enseigne à ses disciples, à ses apôtres précisément, et il leur dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits, en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un as ? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre indépendamment de votre Dieu. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, n'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaît en moi devant les gens, je me reconnaîtrai aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je vous invite à chanter le cantique 401, les strophes 1, 2 et 4. Et nous nous levons. Nous prions ensemble. Dites-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois, je sache le dire aux hommes. Ô Seigneur, c'est par la beauté que tu révèles ta grandeur, c'est à travers l'homme que tu révèles ton amour. Seigneur, gonfle les ailes de ma foi pour que je puisse prêcher partout le nom de Dieu. Délie ma langue pour que je fasse honneur à ton saint nom. Éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui l'ignorent ce que tu es, toi, le Père du Fils de Dieu. Amen. Dans son enseignement aux apôtres, Jésus indique les pièges et les difficultés de la mission qu'il leur donne. Il leur dit un peu plus haut que le passage que nous avons lu ensemble, qu'ils seront comme des moutons au milieu des loups, et ils devront être avisés comme des serpents et purs comme des colombes. C'est dans un contexte d'adversité que se situe ce discours de Jésus, un contexte où la vie est en jeu. Et c'est aussi dans un contexte de persécution que s'est déployée une partie importante de la vie de celui dont nous fêtons ce matin l'anniversaire. 500 ans. En effet, Gaspard de Coligny est à la fois contemporain d'une mutation extraordinaire de la vie religieuse de notre pays et victime des violences qu'elle a suscitées à l'encontre de ceux qui voulaient l'empêcher. Et même si l'Évangile nous assure qu'aucun des moineaux qui tombent sur la terre ne le font sans que Dieu ne le sache, les hommes et les femmes qui ont été tués, massacrés, brûlés vifs, emmurés vivants même, pendant cette gestation douloureuse d'un nouveau christianisme, semblent n'avoir pas pesé plus lourd que quelques petits moineaux dans les mains de leur sacrificateur. Il aura fallu 8 guerres de religion et encore beaucoup de ténèbres pour qu'enfin soit donné aux protestants le droit plein et entier de confesser leur foi en plein jour, tel que Dieu le dictait à leur conscience, comme il l'avait dicté à la conscience des apôtres. Ce n'est véritablement qu'à partir du 9 décembre 1905, je dirais, date de l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État, que, en France, cette liberté a pu être totalement garantie, même s'il faut toujours être vigilant. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, dit le Christ. La chose semble aisée à la première lecture et pourtant cette exhortation à elle seule présente pour nous bien des écueils. Les ténèbres dont il est question ici ne sont pas les nuits sans étoiles qui enveloppaient quelques conversations intimes entre Jésus et ses disciples, mais bien plutôt les ténèbres de la conscience qui doit trouver par ses propres forces la lumière de la foi capable d'éclairer son jugement. Comment savoir ce que nous dit intimement le Christ, ce qu'il nous dit dans le secret de notre nuit obscure? Comment discerner cette parole? Comment savoir ce que nous dicte la foi? N'est-il pas normal d'entendre la voix de ses propres désirs et de faire place à nos propres intérêts plutôt qu'à un commandement qui nous implique plus durement et nous expose à toutes sortes de contraintes et de désagréments ? N'est-il pas naturel de vouloir éviter l'obstacle en quelque sorte ? Et quand bien même on arriverait à déterminer ce que notre conscience, libérée de nos contingences et en paix avec notre foi en Dieu, nous dicte, oserait-on proclamer au grand jour cette découverte intime, cette conversation mystique où tout semble clair et distinct pour nous, mais si difficile à communiquer ? Et même encore, si nous osions dire ce qui anime notre conscience dans la foi, le dire en plein jour, pourrions-nous mesurer les conséquences d'une telle proclamation ? Agir dans l'obéissance à Dieu implique d'agir en fonction de tous ses écueils. Les apôtres en ont fait la triste expérience, en le payant souvent de peines de prison ou ultimement de leur vie. Le Christ avant eux avait ouvert cette voie de la liberté du croyant obéissant à Dieu et absolument libre devant les hommes. Gaspard de Coligny a fait lui aussi l'expérience de cette exigence dans la fonction d'envoyé qui lui avait été donnée. En effet, l'itinéraire d'un homme comme Gaspard de Coligny fait écho à celui d'un apôtre, tant il interroge la fidélité du croyant. Né en 1519 de Louise de Montmorency, qui devint la dame d'honneur d'Éléonore d'Autriche, seconde épouse du roi François Ier et sœur de Charles Quint, ce fils de famille noble, proche du roi, notamment par son oncle, le connétable Anne, n'était pas vraiment destiné à combattre pour la liberté de conscience des Huguenots en France. Fidèle au roi et donc au catholicisme de l'État, valeureux militaire, homme de confiance à qui l'État peut confier les plus hautes responsabilités, Gaspard a tout d'un gentilhomme de son temps. Il n'est pas spécialement austère. Il refuse d'ailleurs de devenir religieux, lui qui est si fort en latin. Et si l'on regarde la fresque mythologique du château de Tanlay, sur laquelle il est représenté à demi-nu tenant le trident de Neptune, il est difficile de penser que cet homme de cour, cet homme des divertissements de son temps, deviendrait un jour un adversaire de la cour de Catherine de Médicis. Pourtant, par une suite de circonstances qui vont l'amener à se positionner en conscience sur l'échiquier politique de son temps, Gaspard de Coligny va devenir le chef de file du parti protestant français au XVIe siècle. Étonnant itinéraire. Ne craignez pas ce qui tue le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce cette alternative qui poussa Gaspard de Coligny, amiral de France, d'abord ami dans sa jeunesse de la famille des Guises, car ils étaient très souvent ensemble, à prendre parti pour les malsentants de la foi, comme on appelait les protestants alors? Bien avant qu'il ne déclare en plein jour ce que le Christ lui disait dans les ténèbres, Gaspard de Coligny agit en faveur d'une partie des sujets du royaume qu'il voyait injustement traité. Il n'a pas attendu sa conversion publique, il n'a pas attendu de dire clairement qu'il était protestant pour être outré par les agissements de l'État contre cette partie de la population. Théodore de Besse témoigne pour lui en disant qu'il favorisait les gens de la religion, et cela avant même que Calvin lance de Genève, en 1555, sa campagne d'évangélisation dans les châteaux et les grandes maisons, par les nobles même, les envoyant tels des apôtres dans les grandes familles de France pour y insuffler les idées réformées. Sa conscience devait souffrir de voir les persécutions sans fin contre des chrétiens qui, après tout, valaient bien les chrétiens du clergé catholique. Voir tuer les corps pour tuer la liberté de l'âme, voilà qui devait poser un cas de conscience à l'homme loyal que semblait être l'amiral.
L'itinéraire spirituel de Gaspard de Coligny est tellement parallèle aux mutations religieuses et politiques de son temps, cet itinéraire y est tellement imbriqué, qu'on est frappé par l'influence de la grande histoire sur la conversion religieuse de cet homme. C'est comme si l'amiral avait été converti par le spectacle et la pratique de la politique de son temps, plus que par les évangiles eux-mêmes. Les évangiles, il les avait dans son cœur, mais voyant ce qui se passait autour de lui, il fallait qu'il les relise autrement, comme si les choix que l'histoire de son temps l'avait obligé à faire avaient modelé son édification spirituelle, comme si l'exercice du pouvoir était devenu pour lui le lieu d'expression de sa confession de foi. Les croyants les plus radicaux confondent ainsi le pouvoir et la religion, me direz-vous. Mais dans le cas de Coligny, il n'est pas question d'un illuminé qui tente d'imposer sa foi et sa volonté à tous dans un geste de violence. Il s'agit d'un homme attaché au droit et à la liberté de conscience pour tous, qui va défendre ceux qui sont bafoués et découvrir qu'il est d'accord avec ce que ses croyants défendent. C'est d'abord par la défense du droit et de la liberté de conscience que Coligny entre en dissidence avec les chefs catholiques, tout en restant très lié à son frère Odé, qui est, ne l'oublions pas, cardinal. Il ne veut donc pas anéantir le catholicisme, il ne veut donc pas une seule religion toute puissante, il veut faire cesser le pouvoir de quelques princes qu'il juge illégitimes et tyranniques. Je ne suis pas venue apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Cette parole terrible de Jésus révèle la difficulté de ce qu'est un choix de conscience. Choisir en conscience nécessite de couper du tranchant de l'épée entre ce qui semble juste et ce qui semble aller contre les convictions profondes que l'on défend. Étrangement, la cohérence intime implique non pas une harmonie, un tout, mais une coupure, comme l'acte de création que Dieu fait en coupant pour sortir de la confusion et du chaos. L'acte de foi exerce des coupes nettes dans nos vies et implique des choix qui ne permettent pas de tenir tout en même temps. L'évangile de Matthieu nous dit que le choix de suivre Jésus va jusqu'à couper les liens les plus élémentaires entre l'homme et son père ou la fille et sa mère. Il en va de la conversion comme d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance, d'un nouvel ordre. Coligny n'aura pas à se couper de son frère Odé, le cardinal, au nom de la foi, puisque celui-ci deviendra lui aussi protestant peu après son frère. Mais il n'empêche qu'entrer en dissidence en 1560 et faire célébrer ouvertement un culte protestant représente un choix aussi grave que celui d'entrer en guerre. Si quelqu'un me renie devant les gens, dit le Christ, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La menace est claire et il s'agit bien là de prendre parti pour ou contre Jésus et le faire non pas clandestinement, mais devant tous, avec courage comme un témoignage. Choisir son camp. En politique comme en religion, il est toujours difficile de choisir son camp. La conscience peut, jusqu'à un certain point, composer avec quelques contradictions ou quelques incohérences dans un discours politique comme dans un discours religieux, mais quand le point de rupture est atteint et que la contradiction est intolérable, pour la raison comme pour la foi, alors il faut trancher. Et l'on se rend compte qu'il faut parfois changer de religion pour ne pas renier sa foi, comme il faut parfois changer de parti pour ne pas renier ses convictions politiques. La question de la fidélité est partout présente dans la question de la liberté de la conscience, parce que la conscience se révèle véritablement là où il y a une crise. Martin Luther ne serait pas entré en dissidence avec son Église si le discours qu'elle tenait n'avait pas provoqué une crise profonde en lui. En refusant de se compromettre avec les pratiques de son clergé, Martin Luther avait fait émerger sa conscience et affirmait son identité, sa cohérence intime, sa foi profonde. Tolérer de s'accommoder avec les pratiques de l'Église l'aurait amené à se renier lui-même, et en se reniant, renier aussi son maître, le Christ. Quel maître choisissons-nous de suivre? À quel principe obéissons-nous dans nos vies? Pour quelle cause sommes-nous prêts à nous engager? Nous souvenir de l'amiral Coligny pourrait être un geste identitaire de protestant nostalgique d'un temps où prendre parti avait un sens encore historique. Pourtant, le personnage Coligny peut faire ici office de symbole entre notre temps présent et un temps dans lequel s'origine notre identité spirituelle. Mais quelle est cette identité? Se construit-elle en opposition pure et simple à un autre parti, à un autre camp, en l'occurrence le catholicisme? Nous confessons le Christ, nous célébrons la scène, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous avons beaucoup de textes en commun. Il est donc difficile de renier cette partie purement et simplement, cette partie du témoignage chrétien qui nous est si essentielle. Est-ce que cette identité se construit sur une mémoire de quelques personnages emblématiques de la Réforme, Calvin, Luther ou Théodore de Bèze? Se référer ainsi à des personnalités exemplaires pourrait bien nous faire tomber dans un culte des saints, pourtant balayé par les réformateurs eux-mêmes. Est-ce que cette identité repose sur un kérigme de la foi qui ferait table rase de toute contingence historique, comme cette affirmation de foi « Jésus-Christ est le Seigneur ». Mais cette affirmation peut être dite par toutes les confessions chrétiennes. Tout dépend de la façon dont nous habitons cette confession de foi. C'est en cela que nous souvenir de l'amiral de Coligny a valeur de symbole. Dans ce personnage se combinent les contingences historiques et la confession de foi d'un homme. Non pas dans un héroïsme inaccessible au commun des mortels, mais dans l'incarnation d'un modèle en crise. La biographie de Coligny dessine l'itinéraire d'une foi particulière qui ne s'accommode plus des contradictions qu'elle provoque pour le bien commun. Entre le parcours personnel et le parcours politique, entre le particulier et le collectif, la crise apparaît, manifeste, quand le pouvoir des uns empêche le droit des autres, quand la vie des uns ne vaut plus la vie des autres sous le regard du même Dieu. Lorsque l'on vend deux moineaux pour un as, comme dit l'évangile de Matthieu, et que la vie vaut si peu qu'on peut la sacrifier sans en payer le prix, alors le choix s'impose de savoir à quelle fidélité on obéit. Se souvenir de Coligny et fêter son anniversaire, c'est reconnaître en lui la complexité d'une conversion. D'abord impossible, puis hésitante, et enfin irrépressible. Gaspard de Coligny fait figure de symbole d'une réforme qui n'est pas identitaire, mais dynamique, qui s'origine toujours dans un temps d'avant la conversion, pour se révéler dans un témoignage de la foi vécue. Une figure du passage, d'un état de convention à un état de subversion. Voilà ce qu'est la figure d'un réformé. Inutile de vouloir découper le politique du particulier, la confession de foi intime des prises de position publique. La réforme est un mouvement de la vie tout entière. Ce n'est pas moi qui me réforme, c'est dans la foi que je suis réformée, convertie, transformée. La chose a de quoi faire peur. Comment vivre quand l'occasion se présente dans la transgression d'une réforme toujours à faire? Comment se déterminer constamment sans jamais interrompre son jugement? Comment être toujours à l'écoute de cette parole qui nous parle dans les ténèbres et adapter son action? Sans doute en s'inscrivant dans l'histoire de son temps, en ne la laissant pas aux autres seulement, mais en y faisant vraiment notre part, en y participant pleinement, en y étant acteur et porteur d'une parole pour ce monde. Gaspard de Coligny ne s'est jamais désintéressé du bien commun. Et c'est sans doute cela qui est extrêmement étonnant et édifiant dans sa vie. Il a élevé ce bien commun au rang d'une quête, sans avoir peur de ceux qui allaient tuer son corps pour essayer de tuer son âme. Il a échappé à ce qui tue l'âme et le corps, c'est-à-dire à l'hypocrisie, à la compromission, à la lâcheté, qui consiste à transformer la foi en un accessoire, là où elle devrait toujours être le moteur de notre vie. Sa mort pourrait avoir réduit à néant son combat pour la vérité, pourtant cette vérité a subsisté au-delà de sa mort. Un tel itinéraire fait penser à ce texte de Blaise Pascal qu'il écrit un siècle plus tard environ à propos d'un autre combat spirituel. Et voilà ce qu'il écrit. Vous croyez avoir la force et l'impunité, mais je crois avoir la vérité et l'innocence. C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand l'on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une contre l'autre. Qu'on ne prétende pas de là, néanmoins, que les choses soient égales, car il y a cette extrême différence que la violence n'a qu'un cours borné à l'ordre de Dieu, qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu'elle attaque. Au lieu que la vérité subsiste éternellement et triomphe enfin de ses ennemis, parce qu'elle est éternelle et puissante comme Dieu même. Nous avons tant de combats à mener pour empêcher le chaos, le mensonge, le pouvoir inique, l'inégalité entre les hommes, les violences faites aux minorités, aux plus faibles ou plus simplement, puisque c'est d'actualité, nous le voyons dans notre pays, aux femmes. Comment notre foi pourrait-elle se manifester ailleurs que dans cette histoire dans laquelle nous déployons notre vie? Comment faire pour ne pas voir que notre confession de foi est dépendante de cette histoire qui est autour de nous? Nous ne sommes pas hors du monde. Inutile de vouloir imposer une foi dogmatique à ce monde, toujours la même, quelle que soit l'époque, car nous sommes engagés dans ce monde et c'est là que se révèle et se construit notre confession de foi. Elle en est dépendante. N'ayons pas peur de cet engagement pour lequel tant d'hommes et de femmes ont laissé leur vie. N'ayons pas peur de la liberté de nos consciences, même s'il est effrayant parfois de mener certains combats. N'ayons pas peur ni des combats qu'implique notre conscience, ni de cette vérité qui semble si fragile et qui nous engage tant. Nous valons bien plus que deux petits moineaux, et même eux, Dieu les garde. En Dieu, nos vies sont confiées. Nous pouvons continuer à lutter pour la vérité et à lutter pour la justice. Amen. Merci au chœur de l'oratoire et je vous invite à chanter ensemble le cantique 278, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir.
Bonjour à tous, merci à Béatrice Cléromazir pour le culte de commémoration de la naissance de Gaspard de Coligny. Merci à Alexandre Korovitch de nous accompagner à l'orgue. Alors, dans la semaine, de nombreuses activités, comme d'habitude, deux que je vous signale, c'est Théophile, mardi 26 à 20h, et l'initiation à la théologie, mercredi 27 à 20h. Et puis, la grande actualité, c'est la vente, bien sûr, le week-end prochain pour notre paroisse. Donc, le vendredi, elle commence à 12h jusqu'à 19h, le samedi de 10h à 18h. Samedi, c'est le repas de la vente qui est particulièrement important pour nous puisque c'est au bénéfice de l'entraide. Malheureusement, à l'heure actuelle, seulement 11 personnes se sont inscrites et nous ne pouvons pas le tenir à moins de 25 personnes. Donc, vous avez... À l'issue du culte, Rive qui sera là pour prendre vos inscriptions. Ce repas est un peu particulier parce qu'on ne le fait que sur inscription. Vous n'y êtes admis que sous la contremarque pour y assister. Donc merci à tous ceux qui avaient l'intention ou qui ont envie de s'inscrire, de le faire dès à présent. Et vous avez jusqu'à mardi via le secrétariat, mais le plus tôt est le mieux. Ce sera aimable pour nos bénévoles qui s'investissent sur ce repas. La semaine prochaine, le culte sera présidé par notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer et sera accompagné à l'orgue par David Cassan. On souhaite, sur la semaine prochaine, il y aura le dimanche aussi le repas paroissial, donc qui est différent de celui de l'Avent, et le concert de l'Avent à 14h. On nous prie d'annoncer 4 décès cette semaine. Le décès le 10 novembre de Monsieur Jacques Marie, qui était l'époux d'Hélène Marie, qui a été secrétaire à l'oratoire, notamment avec Lise André, présidente du conseil presbytéral, et le pasteur Maison. Le deuxième décès est celui de Madame Monique Durleman le 11 novembre. Le décès de Monsieur Rémy Stricker le 19 novembre et un culte d'action de grâce aura lieu présidé par Agnès Adeline Schaeffer mardi 26 à 14h30 à l'oratoire. et le décès de Madame Janine Roum le 14 novembre, qui est la mère de Sophie Roum, et un culte d'action de grâce sera envisagé début 2020. C'est maintenant le temps de...
Pardon. Oui,
nous avons la chance d'avoir l'exposition sur Gaspard de Coligny qui est, merci Béatrice, rentrée dans le temple pour ce jour particulier. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour la regarder à la fin du culte. C'est maintenant le temps de l'offrande, donnée avec joie.
Nous louons le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et en tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Père, invité à ta sainte scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont mis en mémoire actuellement. Nous te prions pour tous ceux qui luttent sur cette terre pour défendre la liberté et les droits de chacun. Nous pensons particulièrement au Liban ce matin. Permets, Seigneur, que tous ceux qui sont de bonne volonté pour faire advenir le droit sur cette terre trouvent de plus en plus de soutien et que nous puissions être de cela. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les femmes de la terre qui ont à subir les violences qui leur sont faites au seul titre qu'elles sont des femmes. Permets, Seigneur, que les combats menés puissent aboutir vers une vie pacifiée et un respect de chacune d'entre elles. Pense les blessures, Seigneur, soutiens leur vie et leur courage et rends-nous attentifs à ce qu'elles peuvent confier. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont dans des guerres liées à des religions où le politique et la religion sont intimement liés. Permets que ton nom ne soit pas utilisé à des fins de guerre pour annuler la grâce que tu as voulu pour tout homme, mais que ton nom soit là pour la paix, Seigneur, pour le pardon et pour la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui ont dit oui à ton appel et qui témoignent de ton amour au grand jour, loin des ténèbres, là où ils se trouvent. Que chacun reçoive de toi la force et la joie pour accomplir sa mission, particulièrement dans ces lieux où règne la guerre et la violence. Nous te remettons chaque personne en souffrance, ceux qui sont autour de nous et que nous voyons arrêtés par la douleur, par la misère, par tout ce qui empêche la vie de se développer. Chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin, car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, mais de toute créature. Seigneur, nous te remettons les malades, ceux qui ont peur de la mort, ceux qui sont dans l'angoisse d'une fin de vie, ceux qui ont besoin d'une main secourable auprès d'eux. Donne-nous la présence, la disponibilité, la parole qui exprime ce soutien. Accompagne l'endeuillé, celui qui vit dans la peine de la perte. Encourage le chômeur, celui qui se sent inutile, mis au banc de la société parce qu'il n'est plus actif de la même façon. Reprends, Seigneur, dans ton soutien celui qui est en prison, qui a peur d'être oublié. Et apprends-nous à partager son souci et son angoisse et à tendre une main vers lui. Conduis, Seigneur, tous les enfants dans l'espérance. Permets que nous soyons de ces enfants qui marchent par la foi. Par ton esprit, aide-nous à transmettre ta promesse avec fidélité à tous ceux qui cherchent ton nom. Nous te demandons, Seigneur, ta sagesse. pour tous ceux qui ont des responsabilités politiques dans notre monde. Et nous te remettons ce monde. Comme des enfants qui s'en remettent à leur père, nous te disons, notre Père qui es aux cieux.
Ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous invités à la table du Seigneur. Nous sommes tous ses invités et ses enfants. Vous êtes tous les bienvenus autour de cette table pour partager cette scène. Je vous invite à faire cercle autour de la table. Il y aura plusieurs services puisque nous sommes nombreux ce matin et il faut donc plusieurs services consécutifs. Et donc je vous invite à avancer par l'allée centrale et repartir par les allées latérales quand le service est terminé.
Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus le crucifié. Le vin que nous partageons est le mémorial du sang du Christ le ressuscité.
Du jus de raisin est à disposition pour les personnes qui ne prennent pas d'alcool.
Frères et sœurs, le temps de ce culte était le temps d'une halte, mais le monde vous attend pour que vous puissiez lui apporter la bonne nouvelle du Christ. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Allez, frères et sœurs, allez avec le courage et avec votre conscience pour guide. Écoutez dans le secret des ténèbres la parole de Dieu qui vous parle et vous pourrez proclamer haut et fort, en plein jour, la grâce qu'il annonce à ce monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen. Sœurs, un pot d'accueil vous est proposé à l'issue de ce culte dans la grande sacristie. Vous êtes tous les bienvenus pour partager ce qu'on nous a préparé si gentiment. Voilà, et vous pouvez rester un instant pour écouter notre organiste. Aujourd'hui, c'était Alexandre Korowitz avec le chœur qui est là ce matin pour nous. Donc si vous pouvez prendre, avec Fabien Aubé qui dirige le chœur, si vous pouvez prendre juste un petit instant pour les écouter. Si vous êtes obligé de partir très vite, partez très vite, mais vous pouvez aussi rester pour écouter. Merci.